Les meeples sont de sortie, c'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Ludique, les amis. En ce premier jour de la semaine, eh bien, on va parler jeux de société. Ça tombe bien, vous êtes dans la seule émission quotidienne qui parle de jeux de société à la radio. Et d'ici quelques instants, on va retrouver Morgane du Carnet des Geekeries pour Soirée Jeux. Mais je vais commencer par vous parler d'un petit jeu de joueurs. Et croyez-moi, c'est une pépite. Au menu aujourd'hui donc, c'est Agent Avenue, un jeu de Laura et Christian Kudal, illustré par Fanny Pastor Berlin. Pour deux joueurs à partir de 8 ans et édité par Yellow. Alors Agent Avenue, c'est un jeu qui mêle la course et le bluff. Le but étant d'attraper l'hôte pour l'emporter, un genre de chat et la souris, hein, sauf que l'un est le chien et l'autre le chat. Hein. Chacun aura son petit pion sur le plateau. Au niveau de la mise en place, vous placez le petit plateau de 14 cases au centre de la table et vous mélangez les cartes. Chaque joueur va recevoir 4 cartes et placer son pion à l'opposé du plateau. Voilà, vous êtes prêt à jouer. Mais alors comment on joue ? À votre tour, vous choisissez deux cartes et vous en placez une face visible et une face cachée. Elles ne peuvent pas être identiques, hein, sauf si vous n'avez pas le choix, mais c'est quand même très rare. Parmi ces deux cartes, votre adversaire en choisit une. Il peut prendre soit celle face visible, soit celle face cachée. Et vous, bah, vous recevez la carte restante. En gros, c'est « je partage », mais c'est lui, hein, qui choisit. La carte que chaque joueur obtient détermine le déplacement de son pion sur le plateau. Si c'est votre première carte agent de ce type, vous avancez d'un certain nombre de cases. S'il s'agit de la deuxième carte de ce type, ce déplacement peut être différent. S'il s'agit de la troisième de ce type, il peut à nouveau se déplacer différemment. Par exemple, j'ai devant moi ma première carte agent sentinelle, je ne bouge pas. Par contre, si c'est la deuxième, j'avance de 2. Et si c'est la troisième, j'aurai avancé de 6. Là, forcément, ça devient dangereux pour mon adversaire. Ensuite, les rôles sont inversés et ainsi de suite, on continue à jouer jusqu'à ce que l'un des pions dépasse l'autre sur la piste du plateau car il l'aura capturé. Franchement, c'est très rapide. Attention parce qu'il y a quand même deux cartes dans le jeu qui peuvent vous faire gagner ou perdre immédiatement la partie si vous en récupérez 3. Si vous avez récupéré les 3 risques tout, là la partie est perdue pour vous alors que 3 agents cryptologues et là, c'est gagné. Il existe aussi une variante, si vous retournez le plateau, vous allez voir des petites poubelles, vous allez ajouter les cartes du marché noir. Chaque fois que vous tombez sur l'un des symboles poubelles, vous pouvez choisir une des 3 cartes du marché. Et ces cartes vous offrent un bonus unique et parfois changent carrément aussi la règle du jeu. Alors ce que j'en pense, les parties d'Agent Avenue sont très rapides. Je vous l'ai dit, 5-10 minutes, donc vous allez les enchaîner. Le jeu est simple, les règles ne sont pas compliquées, mais par contre, vous avez une grande profondeur de jeu dans les décisions à prendre. Quelle carte choisir ? C'est tout le dilemme. Vous poserez sans arrêt cette question au fur et à mesure que le jeu avance. Est-ce que vous placez une bonne carte face visible en espérant qu'il prenne la carte face cachée ? Est-ce qu'elle est meilleure pour vous ? Ou est-ce que vous jouez une carte face cachée qui est un piège ? Pas si évident, ça va bouillir dans votre tête, sachant qu'à tout moment, cette décision pourra vous faire gagner ou perdre la partie. L'éditeur de Mindbug envoie une nouvelle pépite, alors je n'ai qu'une chose à vous dire, attrape-moi si tu peux. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Morgane du Carnet des Geekeries pour Soirée Jeux. Et comme tous les lundis désormais, on retrouve Morgane du Carnet des Geekeries. Salut Morgane.
Salut.
Alors ce week-end, je suppose que tu as eu le temps de jouer.
Oui, j'ai joué. Alors pour le coup, on va faire une spéciale petit jeu.
Petit jeu.
Aujourd'hui,
d'accord.
Voilà, c'est des petits jeux, petit format. Donc il y a 4 jeux à vous présenter.
Ouais.
On commence avec Abyss Conspiracy.
Oui.
Si le nom vous évoque quelque chose, c'est pas pour rien, puisqu'on est dans l'univers du célèbre Abyss de Bruno Catala et Charles Chevalier. Donc Abyss Conspiracy, c'est sorti en 2020 chez Bombix et c'est illustré par Pascal Kido. Et en fait, dans cette version, on va devoir gagner de l'influence en recrutant des seniors les plus avantageux possibles et en les mettant dans notre chambre sénatoriale pour qu'elle soit la meilleure à la fin. Donc à chaque tour, on va avoir 2 actions à réaliser, on va recruter et on va placer nos seigneurs dans la chambre sénatoriale. Donc la première action, c'est le recrutement. Et pour ça, on va avoir 2 possibilités. Donc soit on va piocher de 1 à 3 cartes dans la pioche qui sera face cachée et on va en choisir une seule, donc une seule carte seigneur qu'on va ajouter à notre chambre. Soit on va pouvoir aller récupérer des seigneurs qui sont déjà défaussés d'une seule couleur mais qui seront face visible au centre de la table parce qu'en fait les cartes piochées qu'on ne choisira pas si on pioche face cachée,
ouais.
On va les mettre face visible au centre de la table par couleur. Donc à son tour, un joueur peut être amené à en récupérer plusieurs d'un coup d'une même couleur, donc ça peut être avantageux. La chambre sénatoriale, elle sera représentée par une zone devant nous qu'on fera en pyramide inversée en fait. Donc il y aura une première ligne avec 5 seigneurs, une deuxième avec 4, etc. jusqu'à tomber à 1. Et en fait, la subtilité, c'est que les seigneurs de la chambre sénatoriale, ils seront placés dans l'ordre dans lequel on les récupère. Donc, on ne pourra pas les placer comme on veut. Il faudra vraiment les placer à la suite, de haut en bas et de gauche à droite, du coup. Il y a certains seigneurs qui ont des pouvoirs, donc qui vont pouvoir apporter des clés, des perles, mais aussi permettre d'inverser l'emplacement de deux cartes. Donc ça, ça pourrait être utile justement parce que bah, y a ce problème de pose où on n'a pas le choix de l'emplacement à la base. Mmh. Et sur les seigneurs, on va aussi trouver des points. Donc en fait, à la fin de la partie, dans chaque couleur, on va scorer le seigneur qui aura la plus forte valeur. Donc c'est quand même utile d'avoir des seigneurs de grande valeur. Et les clés, elles vont permettre de récupérer des lieux. Donc sur le même principe de pioche que les seigneurs, on va en piocher plusieurs. Et ça nous fera des points supplémentaires en fin de partie selon les conditions indiquées ou des avantages en cours de partie. Donc on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'un seul joueur remplisse entièrement sa chambre sénatoriale. Donc là, il met fin à la partie même si les autres n'ont pas terminé. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui va forcément l'emporter. Mais pour ça, on va avoir celui qui a le plus de perles qui va devenir seigneur des perles et qui va remporter des points en plus. Et on va ajouter aussi des points pour la plus grande série de seigneurs adjacents de même couleur.
D'accord.
Donc chaque carte en fait de la chaîne, elle fera gagner 3 points supplémentaires. Donc c'est pas négligeable. Donc c'est pour ça que généralement, on essaye quand même de viser les couleurs qu'on veut pour agrandir notre chambre. Avant de jouer la première fois à cette version, j'avais jamais joué au Abyss de base, donc j'avais aucune comparaison possible. Depuis, j'ai joué et en fait, c'est vrai que dans cette version, on retrouve pas mal de similitudes avec Abyss quand même. Mmh. Mais dans une version carte, donc forcément plus rapide à jouer.
Ah oui,
au
oui.
final, on a des mécaniques de collection, d'optimisation, avec des règles qui sont quand même vachement accessibles. Mais forcément, pendant la partie, on va constamment chercher à s'avantager avec les seigneurs qu'on récupère, sans prendre trop de retard non plus dans la composition de notre chambre, parce qu'on sait que les autres, s'ils avancent bien et que nous, on n'avance pas trop, on va se retrouver forcément à faire des choix. En plus, quand on pioche plusieurs seigneurs, on sait que ceux qu'on va pas choisir, ils vont aller au centre de la table, donc ils seront pour les autres aussi. Donc on va essayer de pas trop leur laisser non plus des bonnes cartes. Donc voilà, il y a un côté prise de risque qui s'installe rapidement, en plus de la stratégie, à savoir si on privilégie les lieux en récupérant des clés ou les seigneurs qui font le plus de points. En fait, chaque partie, elle est différente, donc ça se joue vite, on peut rapidement faire une derrière. Côté format, on est sur une petite boîte métal.
Ouais.
Qui s'embarque facilement avec nous.
Alors, qui est carton puis, maintenant à la boîte hein.
Ah, c'est vrai, là, en carton. Ouais. Ah, moi j'ai la boîte métal encore. Donc, donc c'était peut-être mieux. Je sais pas si ils ont fait toute une gamme du coup dans ce.
Oui, oui, ils commencent à faire le format carton pour Codex, pour toutes ces boîtes
d'accord,
carrées.
Ouais. Ok. Je savais pas. Voilà,
les boîtes métal, c'est dans ma boîte terminé. Comme chez Gigamic qui est terminé les boîtes métal.
Ouais, Gigamic, j'avais vu, mais je savais pas que Bombix faisait pareil.
Ouais.
Mais du coup, après le format change rien au jeu, de toute façon. Mais en plus, on a des visuels qui sont hyper beaux. Ça nous plonge vraiment dans l'univers d'Abyss. Et en fait, cette version d'Abyss, elle est fluide, elle est dynamique. Et pour moi, ça permet une belle entrée dans la matière avant d'aller sur un gros Abyss, parce que Abyss c'est quand même costaud à côté.
Ah bah oui.
Mais du coup, c'est une jolie entrée en matière. Et puis c'est vrai que j'aime bien y jouer de temps en temps. J'ai toujours plaisir à y jouer.
Et si vous aimez Abyss, forcément, ne manquez surtout pas au mois d'octobre Légion. Qui est donc la version 2 joueurs d'Abyss, donc Abyss Duel. J'ai testé à Cannes et franchement, c'est une tuerie. Quoi.
Ouais, donc, j'ai hâte de l'essayer celui-là parce que tu vois, autant en Abyss, j'ai du mal à le sortir.
Donc Abyss c'est plus compliqué à le sortir. Abyss, c'est plus compliqué à le sortir parce que c'est du gros jeu, forcément. Mais la version Duel, là, c'est vraiment très très bien, il y a de la tension et tout, du tir à la corde, enfin c'est... Ouais, non, franchement, c'est...
Ouais, faudrait que j'essaye ça.
C'est top, c'est top, c'est top. Deuxième jeu, Morgane.
Deuxième jeu, on continue avec G-Pur, qui pour moi, c'est un classique des jeux à deux.
Oui.
On est sur une réédition, ça a été le premier jeu ressorti chez Space Cowboys dans leur gamme à deux joueurs qu'on connaît bien aujourd'hui. G-Pur, c'est un jeu de Sébastien Pochon qui est illustré par Vincent Dutré, et cette réédition, elle est sortie en 2019, mais le jeu original, il date de 2009. Donc dans ce jeu, les deux joueurs vont incarner des marchands, et leur but principal, ça va être de devenir le meilleur marchand de Maharaja. Et pour ça, on va jouer 3 manches, donc à chaque tour, on aura 2 possibilités, soit on va prendre des cartes, soit on va en vendre. Pour en prendre, on va avoir le choix entre prendre une seule carte marchandise sur un marché qui est visible au centre de la table, sans rien échanger, mais on va pouvoir aussi échanger plusieurs marchandises de notre main contre d'autres qui sont au centre de la table, ou décider d'embarquer toutes les cartes chameaux d'un coup. Ces cartes chameaux, elles seront utiles pour faire des échanges contre d'autres marchandises, mais aussi pour récupérer des points en fin de manche, parce que si on est celui qui en a le plus, on récupère un petit jeton avec des points supplémentaires. Autre possibilité, c'est donc de vendre des cartes. Donc pour ça, on va choisir un seul type de marchandise dans notre main. On va défausser autant de cartes qu'on veut de cette marchandise et en échange, on va récupérer un jeton avec des points dessus par carte qu'on aura vendue et un petit bonus supplémentaire si on vend entre 3 et 5 cartes de la même marchandise d'un coup. Donc t'as certaines marchandises qui sont plus rares que d'autres, donc on va forcément viser celle-là en premier parce que c'est celle qui rapporte le plus de points. La fin de la manche, elle se déclenche quand 3 types de jetons, marchandises ou que la pioche sont épuisés. À partir de là, on va compter les points de tous nos jetons qu'on aura récupérés, du jeton chameau pour celui qui en a eu le plus et qui le possède, et on repart sur une nouvelle manche parce que ça se joue en 2 manches gagnantes. La version sortie par Space Cowboys, elle était sortie pour les 10 ans du jeu.
Ouais.
Et c'est vrai que ça a donné un petit coup de fraîcheur en fait au jeu en le remettant aussi en avant parce que forcément en 10 ans il y a eu plein d'autres sorties ludiques mais du coup ça le remettait vraiment en avant dans les boutiques et je pense que ça lui a vraiment fait du bien d'avoir ce petit coup de refresh. Mais pour le coup c'est un jeu à deux que j'aime beaucoup parce qu'en fait à chaque partie et même à chaque manche c'est différent en fait, tu joues vraiment pas de la même façon. On a vraiment le côté stratégique qu'on soupçonne vraiment pas au départ et on sait pas vraiment l'avance ou le retard qu'on a sur l'autre joueur parce que des points on sait pas ce qu'on a récupérer. Donc c'est vrai qu'on se livre une vraie guerre des marchandises au final. Donc on contrôle pas le marché, donc parfois on va râler de voir que les meilleures marchandises elles sortent pour l'autre joueur et pas pour nous. Pour le format c'est vrai que c'est pas du tout dérangeant et comme ça se joue en 2 manches gagnantes, on a le temps quand même de se rattraper. Donc on reste sur des mécaniques simples, ça reste accessible, c'est aussi idéal pour jouer avec les plus jeunes. Je trouve que c'est
un vrai classique du jeu de joueurs Jaipur, franchement.
Oui, Jaipur, c'est vraiment. Après, ils en ont fait plusieurs, Space Cowboys, mais c'est vrai que je pense que Jaipur, ça reste leur classique à deux joueurs dans ce format.
C'est d'ailleurs chez Space Cowboys un nouveau jeu de joueurs qui arrive. Ça s'appelle Garden Rush avec des légumes. Et contrairement à ce que vous voyez, la boîte fait enfantin, mais le jeu n'est pas du tout enfantin.
Non, pas du tout, ouais.
Voilà, mais comme je dirais, quand je le présenterai, les enfants ont le droit d'avoir des légumes, mais les parents aussi peuvent jouer avec des légumes. Il n'y a pas de souci, franchement.
Mais c'est une année jeu à deux en plus, parce que tu vois, Toy Battle, c'est le même effet en fait.
Ouais.
Un truc, c'est enfantin, et en fait,
complètement.
Pas du tout.
Ouais, et Toy Battle, tu joues avec tout le monde. On aura l'occasion aussi d'en parler, mais un petit peu plus tard de Toy Battle, parce que ça arrive début mai.
Tiens. Ouais.
Ensuite, Morgane.
On continue avec Time Bomb Undercover, donc là on revient sur du plus récent, c'est un jeu de Quentin Schumacher et Yusuke Sato qui a été illustré par Amélie Guinée, c'est sorti en novembre 2024 chez Yellow, donc là on est vraiment sur du plus récent.
Ah oui, oui.
Donc, si le nom vous parle, c'est pas pour rien non plus, parce qu'il s'agit d'une nouvelle version du célèbre Time Bomb. Dans cette version, on retrouve l'organisation de Mister X contre l'agence avec Jack Belleville, mais surtout en fait on va découvrir un nouveau personnage avec Shadow, qui fera en sorte de retourner la situation en un rien de temps et surtout à son seul avantage. Donc comme dans Time Bomb, on devra faire en sorte, selon l'équipe dans laquelle on est, de couper les bons fils pour éviter que la bombe explose, ou justement de faire en sorte qu'elle explose. Au début de la partie, on va donc découvrir secrètement si on est du côté des gentils ou des méchants, et le but, ça va être de comprendre quels autres joueurs sont avec nous, à qui on peut faire confiance, et donc d'identifier les bons partenaires qui sont de notre côté. Puisqu'en fait, tour à tour, on va aller choisir un câble à aller couper chez un autre joueur.
C'est ça.
Et là, forcément, ça va y aller en mauvaise foi et compagnie, parce que nous, on connaîtra nos fils. On ne connaîtra pas l'ordre, mais on connaîtra nos fils. Donc, c'est vrai que si on est du bon côté, on fera en sorte que les gens viennent chez nous pour couper des fils. Mais l'inverse sera aussi valable pour les méchants. Donc voilà, le tout, c'est d'essayer de ne pas être démasqué trop rapidement non plus. Et en fait, on va enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un certain nombre de fils soient coupés et les manches vont recommencer comme ça tant que la bombe n'a pas explosé ou que les bons fils de couleur n'ont pas été coupés. Mais la subtilité de celui-là, c'est donc la présence de Shadow, qui peut décider de s'annoncer du côté gentil ou du côté méchant, tout en sachant qu'il ne gagnera que s'il est seul à la fin à faire l'action finale. On a aussi des agents infiltrés qui, eux, vont indiquer faire partie d'une équipe, alors qu'en fait, ils sont en réalité dans l'autre équipe. En fait, dans le Time Bomb d'origine, t'as déjà un bon côté traître qui s'installe dans les parties. Mais là, en plus de retrouver ce côté-là, tu deviens carrément parano en fait quand tu joues à ce jeu, parce que tu sais pas réellement qui est de ton côté. Surtout avec les agents infiltrés. En fait, enfin, moi, c'est eux qui m'ont mis le plus de doutes. Et quand tu le joues, c'est encore pire, parce que tu te dis, en fait, je suis en train de dire que je suis dans telle équipe, donc il va falloir que je joue le jeu de pas me faire griller trop rapidement. Mais voilà, en plus en début de partie, on montre notre symbole d'appartenance à l'un de nos voisins. Donc voilà, si on sait qu'il y a les agents doubles, ça rend assez dingue. Autre nouveauté de cette version, c'est les lieux.
Ouais.
Qui vont apporter des effets de jeu en cours de partie ou même en début de partie. Et c'est typiquement des cartes qui peuvent te retourner la situation en un rien de temps, parce que tu vas peut-être des fois annoncer carrément ce que tu es à quelqu'un. Et puis tu vas pouvoir donner aussi le nom d'un indique que tu es. C'est le genre de jeu qui joue vite, on veut enchaîner les parties, et forcément, bah, plus on est nombreux, plus ça prend. Pour moi, c'est un incontournable des jeux de bluff à rôle caché, en fait, parce que vraiment, on est à fond dedans. On n'oublie pas en plus que là, il y a Shadow, donc lui, il va devoir gagner tout seul,
ouais.
Peu importe comment, hein, soit en désamorçant la bombe, soit en la faisant exploser. Et donc forcément, entre chaque coupe de fil, bah, on va essayer d'influencer bah, le joueur qui va aller couper pour éviter qu'il fasse une bêtise ou, voilà, ou qu'il nous aide un peu plus. Et l'avantage de cette version, c'est qu'on découvre à la fois une version améliorée, donc avec Shadow, les agents doubles et les lieux, mais en même temps, on peut jouer à la version Time Bomb de base en retirant du coup tout ça, et on peut jouer avec la même boîte.
Oui, ouais,
c'est vrai que c'est une boîte idéale pour ceux qui l'ont pas, quoi.
Ouais, en gros, bah, moi, je joue plus avec la première version, hein, déjà, donc c'est...
Ah bah pareil, moi, j'ai que la Undercover.
Voilà. Ouais, donc... Voilà, donc Time Bomb Undercover, donc si vous aimez les jeux de bluff, à ne surtout pas à manquer. Eh bien, merci beaucoup Morgane.
Avec plaisir.
On se retrouve lundi prochain.
Oui, ça marche, avec plaisir.
À bientôt, salut Morgane.
Bonne semaine, salut.
Et nous les amis, on se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de C'est Ludique. Passez une excellente journée, salut.